là, c'est Arcangelo. Entre autres, qui est professeur également et architecte, si je me souviens bien. Donc Flora, elle est peintre, elle est diplômée des Beaux-Arts de Cergy depuis plus d'une dizaine d'années, maintenant elle a une carrière d'artiste contemporaine. On est au cœur de son installation qui s'appelle Revêtement cicatrice polychrome, qui est une bâche PVC, qui était à l'origine en fait une bâche de chantier qui a été peinte, donc à la peinture acrylique polyuréthane par l'artiste, et qui a été en fait qui était une commande du ministère de la Culture et qui venait recouvrir le ministère pendant un chantier. Voilà. Donc c'est une bâche qui a été conçue au sol, mais pour être exposée à la verticale et qui est désormais redécoupée et qui a été adaptée en fait, à l'espace des ateliers Vortex. Donc elle a été redécoupée par endroits, elle suit le dalmi que constitue le sol et elle vient se déployer au mur. Voilà, donc évidemment, on est sur un travail de peinture et de couleur, et donc c'est pour ça qu'elle a souhaité inviter Monsieur Fagot. C'est quand même son domaine de prédilection. Donc je vais leur laisser la parole, et puis ça va durer à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, et ensuite vous serez invité à boire un verre avec nous en bas, si ça vous dit, bien sûr. Voilà, plusieurs autres. Bah, je vous laisse la parole.
Bonjour, merci d'être venu. Je ne sais pas très bien par où commencer. Je pense que je peux commencer peut-être par l'exposition ici, l'invitation et puis l'objet aussi de cette conversation. Quand j'ai été invitée aux ateliers Vortex, j'ai décidé de faire cette intervention qui s'appelle donc Revêtement cicatrice polychrome, qui est une transformation d'une peinture qui existait déjà, que j'avais réalisée pour une autre commande et que j'ai complètement remaniée pour en faire autre chose dans ce lieu et pour la découper et mettre en avant des choses spécifiques de l'architecture. Ensuite, il y avait cette idée d'une conversation qui a lieu pour chaque exposition. Par rapport à l'invitation de Philippe Fagot, ça s'est fait un petit peu. Je cherchais quelqu'un donc qui soit pas historien de l'art ou critique d'art, mais qui ait un lien quand même important avec la couleur. Et donc j'ai appris par Anne-Lise et Fiona qu'il y avait eu des conférences à l'école des Beaux-Arts d'un arcanciologue. Donc j'ai un petit peu regardé parce que ça m'intriguait et je me dis tiens, ce terme d'arcanciologue c'est quand même assez étonnant. J'ai voulu inviter Philippe Fagot, mais j'ai d'abord cru qu'il n'y avait plus de Philippe Fagot parce qu'en faisant des recherches, il se trouve que je suis tombée sur un avis de décès. Et puis, je me suis dit, bon, ce qui était dans la région, je me suis dit, bon, c'est peut-être un homonyme, donc on ne savait pas trop. Alors, Anne-Lise, qui est ici, a contacté donc, le journal. Et puis, finalement, c'est Philippe Fagot lui-même qui a répondu, je suis bien vivant. Et là, nos échanges ont pu commencer d'une manière un petit peu curieuse. Et je peux vous laisser la parole.
Oui, il y a un slogan qui est excessivement répandu, c'est que la couleur, c'est la vie. Donc, quand on travaille sur la couleur, on est quasiment immortel. Bon, ceci dit, c'est avec grand plaisir que, premièrement, j'ai rencontré Flora il y a quelques semaines, et puis nous avons décidé que ce moment qui nous réunit, je n'aurais aucune connaissance de son travail. Donc je suis arrivé tout à l'heure et je l'ai découvert. Et il s'avère que ce travail qui montre, qui atteste d'une hypersensibilité à la couleur, vient percuter un certain nombre de réflexions, de recherches que je mène à la fois au niveau de la couleur, au niveau de l'arc-en-ciel aussi. Et puis, en plus de cette percussion, il y a ce lieu qui n'est pas banal, parce que j'ai coutume de rappeler à mes étudiants, ou lorsque je suis amené à faire des conférences, que la couleur est un phénomène qui n'existe pas, et que tout se passe dans la matière grise. Alors, quand on fait un peu de neurosciences, la matière grise, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle le cortex. Alors, le lien entre vortex et cortex se faisait de façon tout à fait naturelle, et ça rajoutait un peu de piment cette joie d'une conversation avec Flora. Alors, il y a de la matière grise, il s'avère que la matière grise qui est celle de ces espaces non recouverts par la bâche qui a été fragmentée. La première chose que j'ai eue quand j'ai gravi l'escalier, c'est quand même une réticence à marcher sur la peinture. Marcher sur la couleur. Parce que pour moi, c'est pas naturel, hein, de marcher sur la couleur, ou de marcher dans la couleur. Pour moi, la couleur correspond beaucoup plus à la verticalité qu'à quelque chose qui est en plan. Et puis en traversant, alors en jonglant un peu comme le font les enfants sur une marelle, mais pas m'en diriger vers la partie extrême du plateau. Et puis là, j'ai rencontré des souvenirs de Le Corbusier. Le Corbusier, cet architecte qui a beaucoup utilisé la polychromie dans ses constructions, avait un propos qui m'avait toujours intrigué. Il disait qu'on ne peut pas avoir de sol, hein, d'un plancher de la couleur bleue. Pour lui, c'était complètement aberrant, parce que dans son esprit, c'est un peu comme ça qu'il fonctionnait, le bleu, c'est la couleur du ciel, et si on marche sur le ciel, c'est qu'on a la tête à l'envers. Voilà. Et c'est ce qui a rejailli lorsque je suis allé au fond de cette salle. Puis progressivement, en déambulant, cette première réticence a été domestiquée. Et voilà, donc ce premier contact avec une échelle aussi vaste, enfin, j'en étais pas du tout, je vais pas en sortir indemne.
Mais d'ailleurs, c'était dans la première version de la peinture, donc qui était une version entièrement verticale. Le bleu était en effet la partie qui se fondait dans le ciel. Mmh. Et ici, aux ateliers Vortex, j'ai décidé de plus tenir compte de ce rapport au paysage qui n'avait plus spécialement de sens ici, puisque à un moment donné, c'était une peinture qui avait été créée. C'est sur une bâche PVC parce que c'était fait pour aller sur un échafaudage et sur des palissades. C'était une commande du ministère de la Culture pour cacher des installations de, enfin habiller, on dit, des installations de travaux. Et en fait, ici, quand je me suis demandé, tiens, ça pourrait être intéressant de cette bâche qui a été pendant longtemps dans la rue, d'en faire vraiment autre chose et de souligner ces dalles du sol notamment. Et il y a la coupure avec cette partie parce qu'ici, on a une grande dalle en béton, d'où le fait que l'exposition est un peu en deux parties. Il y avait aussi cette idée de se libérer complètement de la construction de départ, puisque la verticalité qu'on a ici correspond donc pas du tout à quelque chose qui va vers le ciel, et au contraire était une partie plutôt centrale, basse, dans la version d'origine. Donc ce qui fait qu'en effet on se retrouve à marcher sur le ciel.
Alors il y a une autre dimension. Alors bon, moi je suis assez sensible au fait qu'il y ait cette séparation entre cette partie sur laquelle nous sommes et puis la partie qui est beaucoup plus géométrisée en fait, qui correspond à l'autre espace, dans le sens où quand on travaille sur l'arc-en-ciel, il y a une composante qui est immédiate, c'est celle des limites. C'est celle des limites, c'est-à-dire que quand on travaille sur l'arc-en-ciel, c'est un spectre, et un spectre, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un spectre électromagnétique dans lequel il n'y a pas de lisière, c'est un continuum, on va dire. Et ce continuum, il est omniprésent ici, c'est-à-dire que dans le travail qui a été accompli par Flora, les limites, elles ont été construites a posteriori par cette fragmentation, mais sur la partie dans laquelle nous sommes. Et je vais reprendre un mot que vous avez prononcé tout à l'heure, qui est celui de la libération. Ici, c'est la totale liberté, c'est-à-dire qu'il y a une fusion, un passage d'une couleur à l'autre, sans qu'il y ait de frontières, sans qu'il y ait de lisières. Et ça, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, parce que quand il n'y a pas de frontières, quand il n'y a pas de lisières, eh bien, c'est un peu le sentiment de l'infini, le sentiment de la liberté, le sentiment du passage, de la transition, qui est l'espace particulier de l'arc-en-ciel. Alors quand on interroge le public, quand on interroge pas essentiellement les enfants et qu'on leur demande il y a combien de couleurs à l'arc-en-ciel, il y a une réponse qui est immédiate. Mais cette réponse, c'est une construction mentale. C'est une construction mentale que l'on a héritée par l'histoire des sciences, parce que un jour un physicien a décidé qu'il y avait sept couleurs et qu'on n'en sortait plus. Donc maintenant, quand on est amené à admirer, être en confrontation avec un arc-en-ciel naturel, le fait que l'on projette sur cette image une sous-fragmentation, hein, c'est-à-dire que si on décrit, on ne va pas voir un continuum, on va avoir cette bande, eh bien je trouve que ça limite notre champ de la perception. Alors qu'ici, le fait qu'il n'y ait pas de limite, en tous les cas sur cette partie-là, c'est une réjouissance, parce que ça nous amène à ouvrir notre sensibilité à autre chose, à des choses qui sont peut-être moins bornées, moins géométrisées que la partie sur laquelle il y a eu ce découpage. Voilà, alors ça c'était ce rapport entre l'absence de limites et puis l'absence, enfin, et les frontières qui ont été dessinées de l'autre côté, qui sont en fait aussi une forme de soumission à la géométrie de l'architecture, de l'espace, hein, puisque vous avez suivi...
Ici aussi d'ailleurs, hein, parce que à l'origine, cette bâche mesurait 10 mètres de large quasiment, par 18 mètres de long, Donc en fait, ici, c'est une découpe qu'on a. Mais même si ça paraît plus libre parce que c'est plus grand, mais finalement, c'est juste une découpe un peu plus large parce que voilà, les découpes de l'architecture ont fait que, voilà, que la peinture s'est organisée comme ça. Ensuite, ce qui m'a intéressé dans le fait de la fragmenter à partir de la taille des dalles des planches en bois qui sont dans l'autre partie du sol, c'était d'une part qu'elles restent relativement grandes puisqu'elles font presque un mètre par deux, donc ça reste des formats, c'est pas non plus des toutes petites dalles, et en même temps que ça pouvait produire des fragments de peinture comme des recadrages où d'un seul coup on va être plus attentif à certains gestes, à certaines choses, et on est peut-être il y a toujours une dimension immersive parce que c'est dans l'ensemble de l'espace, un petit peu moins parce que c'est moins englobant que quelque chose qui nous dépasse, mais par contre voilà, ça permet aussi de recadrer certaines choses et donc de voir différemment les gestes que dans un tout.
Mais quand on se promène sur le bord des murs, on voit aussi que la couleur peut passer en dessous du mur. Elle n'est pas limitée. Et ça aussi, c'est intéressant. C'est quand la peinture ou la couleur sort du cadre, en fait. Hein, une continuité qui peut se projeter en fonction un peu aussi de la liberté de celui qui regarde. Hein, j'ai une certaine affection pour les petits fragments là-bas qui sont au bord du mur parce que j'ai l'impression qu'ils seraient prêts à s'échapper aussi en dehors des limites de cet espace.
Qu'ils continuent sous le mur, voilà. Et qu'on ne sait pas où ça s'arrête.
Voilà. Voilà. Alors, il y a un autre aspect qui lui est un aspect conjoncturel, c'est que nous sommes le 2 avril et il y a quelques semaines, même pas, il y a quelques jours, c'était le printemps. Oui. Il faut en être convaincu. Et que au printemps, il y a un événement extraordinaire qui se déroule en Inde, c'est la fête Holi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette cérémonie annuelle qui est une fête religieuse, une fête qui va célébrer la fécondité, qui va célébrer le retour du printemps, qui va célébrer, et à l'occasion de cette fête qui est organisé maintenant de plus en plus sur l'ensemble du territoire indien. Auparavant, c'était essentiellement dans l'Inde du Nord, et puis maintenant, on en trouve partout. Et dès l'instant où il y a une communauté indienne, il célèbre aussi ces festivités. Et donc, la coutume, la tradition, c'est de s'asperger de poudre de couleur jusqu'à temps d'en être complètement revêtu, et ça met les participants dans une joie absolument incommensurable. Mais c'est de mon point de vue, alors c'est une fête qui commence à être qui se propage à travers le monde, qu'on va commencer à trouver en Europe depuis maintenant une quinzaine d'années. Holi est fêté en Allemagne, en Italie, en France aussi. Mais c'est une célébration qui s'est déculturée. C'est-à-dire que maintenant, c'est essentiellement l'aspect un peu païen de ces réjouissances et non plus le contenu spirituel qui est
Oui, le côté un peu festif, carnaval, enfin, fête de la couleur, voilà. C'est ça qui a été surtout puisé. Capté,
ouais. Et alors, néanmoins, ce rapport à la couleur, et en particulier aux poudres de couleur, hein, aux pigments, en poudre, commence à habiter un peu la sensibilité des Occidentaux, tout simplement parce que c'est une matière colorante, une matière picturale qui apporte le dynamisme, la mouvance. C'est plus quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui est en mouvement. Et là, encore une fois, on rejoint l'appellation de vortex, hein. Vortex, c'est la spirale, c'est tout ce qui est dynamique. Et j'imagine que dans cet espace qui est particulièrement soumis aussi à un éclairage naturel, on peut assister à ces changements de teinte, tout simplement parce que à la fois par l'exposition à l'horizontale mais aussi à la verticale, dès l'instant où il y aura des évolutions de l'éclairage naturel, il va y avoir une métamorphose, une réaction spécifique. Alors, peut-être de façon plus spectaculaire que quand c'était à l'extérieur, comme une bâche de protection, alors qu'ici, ça a changé un peu de statut.
Oui, disons que c'est vrai que, je dirais encore plus parce que c'est sur le sol finalement et qu'il y a aux ateliers Vortex des fenêtres comme ça latérales très basses, donc la lumière, il y a comme ça cette lumière rasante qui arrive de part et d'autre et dans la journée ça change beaucoup et finalement... il y a aussi une grande différence entre la journée et le soir, le moment où voilà, la lumière devient moins intense, la lumière naturelle, et que l'éclairage donc, artificiel devient plus présent, l'éclairage artificiel venant du haut. À ce moment-là, les couleurs ressortent différemment, enfin, on va dire que tout est plus contrasté, puisque là, en pleine journée, les dalles qui sont en réserve, qui sont restées grises, elles prennent autant d'importance que les dalles peintes, enfin dans le sens où il y a des reflets dessus, la lumière qui se pose, et ça a aussi une présence. Alors que, on l'a vu au moment du vernissage, c'est d'un seul coup, la peinture apparaît davantage, alors que de jour, elle est plus mêlé comme ça aux aléas. Oui.
Donc cette dimension temporelle, elle est aussi un peu au centre de... C'est une intention de votre part.
Oui, j'ai beaucoup travaillé avec cet aspect-là dans la peinture, enfin d'accepter l'évolution et les changements. Que ce soit la lumière, mais aussi l'évolution ou l'altération d'une peinture par le temps, notamment en réalisant parfois des peintures en extérieur, donc pas sur des supports comme ici la bâche, mais plutôt directement sur un bâtiment, directement sur des pierres, mais en travaillant avec des techniques comme de l'eau de chaux, avec des jus très légers, et des pigments quand même intenses, mais qui sont amenés à s'estomper au fil des mois ou des années dans certains cas. Et c'est aussi une dimension qui m'intéressait, de pouvoir avoir comme ça une peinture qu'on ne cherche pas absolument à conserver, à garder ou à avoir la maîtrise d'une image, mais plutôt une peinture qui soit vivante finalement. C'est un peu comme, enfin, de manière générale, cette non-maîtrise, c'est quelque chose qui m'intéresse assez. C'est le cas aussi dans le fait de réaliser des œuvres in situ qui sont pensées par rapport à l'architecture, mais qui ne sont pas juste sur un mur. Parce qu'en fait, ce que je fais, ce n'est pas des peintures murales, parce que donc ça peut, ici, il y a un mur, mais c'est principalement le sol, mais dans d'autres endroits, ça peut être aussi le plafond, ou ça peut être des colonnes. Et la particularité, c'est surtout que ça joue avec l'espace, mais c'est en trois dimensions. Donc, la plupart du temps, sauf quelques exceptions, on ne peut pas englober la peinture d'un regard comme on le fait avec un tableau, ou comme on le fait avec un mur d'ailleurs, une peinture murale. Le fait que la peinture soit comme ça, sur des surfaces différentes et avec un relief, c'est aussi, il n'y a pas la maîtrise d'un point de vue. Donc il y a une multitude de points de vue et on ne voit jamais la même chose en fonction de l'endroit où on est placé. Vous disiez tout à l'heure, vous aviez été jusqu'à l'angle du plateau. Il y a peut-être des gens qui n'iront jamais jusqu'à l'angle et puis qui visiteront seulement en restant au centre. Voilà, la vision de l'exposition est aussi différente. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est assez particulier à mon travail, à ma recherche dans la peinture. Ça m'intéresse beaucoup, oui, c'est ça, le fait de ne pas chercher à avoir une image fixe, une peinture fixe, mais plutôt une peinture qui soit en mouvement. Là, on revient au lit, en effet.
Est-ce qu'il y a un point de connivence aussi entre vous?
Oui, tout à fait, parce que l'arc-en-ciel, par définition, c'est quelque chose qui est éphémère, qui a une multitude de points de vue, et puis qu'on capte, qui dure plus ou moins longtemps, mais qui est assez bref. Et donc, la lumière, comme la temporalité, comme les points de vue, c'est pareil, et que ce soit en extérieur, on est de toute façon, on subit une lumière qui change tout le temps, mais même en intérieur, dans beaucoup d'expositions que j'ai faites dans des espaces intérieurs, ça m'intéresse énormément de pas avoir une seule vision de la peinture, mais d'avoir quelque chose de changeant. Et ça m'est même arrivé de faire des expositions seulement en lumière naturelle pour être complètement dans ce, pour que ce soit encore plus fort cette dimension-là.
Et ce rapport à... On peut parler d'inachèvement, de quelque chose qui se prête à des modifications, parce que le sous-titre, c'est cicatrice. Donc cicatrice, c'est aussi un peu... Ça relève d'une réparation, et la réparation, c'est aussi d'arriver à prolonger peut-être ce rapport au présent.
Alors oui, mais je vois pas la réparation comme l'inachèvement. La réparation, pour moi, c'est plus quelque chose qui a été achevé, mais qui est blessé. Enfin, c'est comme une chaussette qu'on reprise. Donc une chaussette, à un moment donné, elle a été dans une forme finie. Et puis il y a un trou et le trou est reprisé. Mais donc on dirait pas pour autant que la chaussette est inachevée. C'est un petit peu pareil pour la peinture. Enfin. Là, dans le cas de cette peinture, c'est plus différents statuts, différentes étapes. En fait, c'est une peinture qui a été réalisée, j'allais dire en atelier, même si ce n'est pas tout à fait en atelier, parce que c'est dans des lieux différents. Cette peinture-là, elle a été réalisée dans un gymnase qui a servi d'atelier. Et puis... elle a été transportée une première fois. Elle a été un petit peu altérée au moment du transport et de l'accrochage. Et il y a eu toute une série de premières retouches qui avaient pour but à ce moment-là d'être des retouches qui soient aussi proches que possible de la peinture, tout en sachant que c'était des retouches que je faisais sur une petite nacelle alors que j'avais travaillé avec énormément de mélanges. Donc la précision était très très relative. puisqu'une fois que j'étais à 20 mètres de hauteur, je n'allais pas, mince, je redescends, il me manque ce orange. Enfin, parfois oui, mais parfois non. Parfois je faisais avec. Donc c'était plus comme, peut-être comme on retoucherait, enfin je fais la comparaison avec des décors de théâtre, parce que les décors de théâtre, c'est fait pour être vu de loin et pas pour être vu de près. Et en fait, quand j'ai rapporté cette peinture ici pour créer cette installation, je savais qu'elle allait de nouveau être altérée, enfin, qu'elle avait peut-être été un petit peu par le temps, mais principalement ensuite par le décrochage, le transport. Je me suis dit, tiens, plutôt que laisser... C'était des marques qui n'étaient pas forcément très gênantes. Hein. C'était de petits trous blancs, mais ça ne se voyait pas beaucoup, en fait. Donc, j'aurais pu laisser comme ça. Enfin, je veux dire, juste d'un point de vue esthétique, c'était pas forcément problématique. Mais c'est plus que ça m'intéressait d'aller jusqu'au bout et d'avoir une deuxième étape, une deuxième phase de retouche, mais cette fois qui joue avec les premières retouches. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a une sorte de trait orange. Ça, c'était une des premières retouches. Et donc, qui de loin n'était pas très visible, mais qui, là où on est beaucoup plus proche de la peinture, donc ça fait... D'où le fait que je parlais de cicatrice, parce que pour moi, c'est un petit peu comme une couture, en fait. C'est souvent aux endroits des plis, d'ailleurs, que ça arrive. Et puis, plutôt que décider, là, de me fondre et d'être au plus proche, j'ai plutôt pris le parti de rester un peu dans cet entre-deux des premières retouches et de me dire je vais pas chercher à faire des retouches qui soient rouge vif ou en contraste total avec ce qui a été fait, restons dans le camailleux, mais peut-être tout en ne cherchant pas à ce que ces retouches soient invisibles, en acceptant que ça va être des touches qui vont à la fois s'intégrer à la peinture et en même temps notifier que à cet endroit il y a eu blessure, donc on met une petite goutte de mercure chrome colorée, quoi. Mmh. Voilà.
Et d'accepter cet aléatoire, ces incidents de parcours, c'est pour vous c'est un effort particulier ou ça se fait naturellement, enfin c'est accepté, ça fait partie de...
Alors, je dirais que c'est vraiment propre à cette installation, quand même, parce que c'est cette histoire de cicatrices polychromes et de retouches. C'est une expérience que je n'avais pas eue auparavant. Et en le faisant ici, c'est venu assez naturellement. Et je me suis rendu compte que c'était aussi drôle parce que j'avais un autre rapport à la peinture en étant dans cet espace que le premier rapport que j'en avais eu quand je peignais sur une bâche vierge et que j'étais dans un gymnase et que j'avais ici j'étais à la fois dans une volonté de précision par rapport au lieu et en même temps dans une volonté d'acceptation par rapport à tous les événements qui étaient déjà arrivés à cette peinture par rapport au fait que c'est une peinture qui a vécu pendant 6 mois ou 9 mois dans la rue. On ne va pas faire semblant qu'elle sort d'un atelier, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc elle est, on pourrait dire, abîmée. On peut dire aussi que c'est des marques qui peuvent créer une nouvelle forme de picturalité ou même les plis, avoir des reliefs, quelque chose qui va aussi être pas forcément perçu comme un défaut, mais peut aussi amener d'autres qualités plastiques finalement, qui sont peut-être moins esthétiques de manière normative ou de manière évidente, mais après, qui sont des choses qui peuvent m'intéresser ou que je peux trouver belles. Et donc, j'étais un peu dans l'idée d'accepter tout ça. Et dans ma manière de faire les retouches, c'était pareil, en fait. Je pense que... c'était pas... J'avais pas... j'étais dans une acceptation que les marques se voient, qu'il y ait aussi une part un petit peu d'aléa, que par exemple au début je m'étais dit je vais voir, peut-être que je referai des couleurs pour retrouver des couleurs exactement, et finalement j'ai décidé que j'allais uniquement reprendre vraiment les mélanges que j'avais. Donc peut-être que certains j'en avais plus parce qu'ils avaient été terminés et que je les ai parfaits, et j'ai fait vraiment avec en reprenant comme ça tous les pots. Et donc aussi oui, dans cette idée de s'adapter un peu aux contraintes du temps qui a passé, et puis de là où on en est aujourd'hui, maintenant, ici.
C'est une démarche qui me touche, cette possibilité de faire un pas de côté, en fait, sur de qualifier comme étant quelque chose de pouvant être intéressant, un accident, une ride, un défaut. Hein, c'est nous apprendre à convertir notre regard par rapport à quelque chose qui nous est familier, qui nous est et d'entrouvrir des perspectives, des portes auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Donc c'est une démarche assez teintée aussi de philosophie orientale, c'est-à-dire de prendre les choses comme elles viennent, de les accepter, pas forcément tout maîtriser, tout contrôler. Vous le vivez un peu comme ça ou
Je ne sais pas, mais quand vous avez dit ça, ça m'a évoqué en fait il y a quelques années, j'avais un ami qui m'avait dit que pour lui, l'art, enfin, la démarche artistique, c'était ce qui était essentiel, c'était se résumer en trois mots, désir, abandon, acceptation. Et en fait, je réfléchissais à ça en même temps. Je ne sais pas si c'est... C'est vrai que aujourd'hui en Occident, et enfin en tout cas en France, il y a quand même une volonté de conservation et de garder les choses. C'est vrai que c'est pas une philosophie peut-être qui nous est propre, le fait de laisser aller les choses ou de... Mais ensuite, je pense que c'est aussi dans l'ordre des choses, parce que finalement, la conservation des œuvres d'art, c'est quelque chose qui est extraordinaire, et de pouvoir garder des choses, retrouver des choses des centaines ou des milliers d'années après. Mais c'est ça va un peu à contre-courant de la logique naturelle de la vie. Parce qu'en réalité, la plupart des êtres et des choses sont là un certain temps, et puis après, voilà, ça passe. Donc je trouve que c'est pareil pour les peintures, finalement. La plupart des peintures que je fais sont éphémères. De temps en temps, une peinture est réalisée pour durer, mais même quand on dit pérenne, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bon, elle va durer un certain nombre d'années, mais après, c'est pas... Enfin, moi, j'ai l'impression que je ne fais pas forcément les choses en me disant, bon, il faut que ce soit là dans 500 ans. Et puis d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Par ailleurs, je pense aux grottes paléolithiques... Des peintures qu'on a retrouvées finalement plus par hasard et par accident, où c'est un petit peu des chances de la nature, un lieu qui se retrouve complètement clos parce que voilà, il y a un éboulement et donc il n'y a plus de lumière qui entre, la température est stable et ça permet la conservation. Et ça, c'est très beau, mais c'est aussi parce que ça arrive par hasard, par chance.
Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est ce qui nous conduit justement à regarder peut-être l'œuvre d'art différemment, de ne pas la projeter sur cette éternité et de la prendre au quotidien, enfin, d'engendrer un dialogue immédiat et puis de voir ce qu'elle nous apporte. Je pense qu'on est à l'heure actuelle dans une mutation sociale, une mutation qui fait que on est plus préoccupé par le jour le jour, enfin de vivre au jour le jour plutôt que de se projeter dans un avenir plus ou moins long. Donc à ce titre-là, l'œuvre d'art éphémère est peut-être aussi un éclairage, un phare sur ces mutations auxquelles on se prépare ou qui sont déjà là peut-être.
Oui, oui, oui. Et par rapport aux problématiques de matériel ou d'avoir trop d'objets, je pense,
oui,
notamment trop de choses. Et il y a une chose que je voulais vous demander au début et que j'ai oublié, mais je pense que ça peut être bien maintenant aussi, même si ça fait un petit peu dévier la conversation. Je me disais que c'était intéressant que vous me disiez peut-être comment vous êtes devenu arc-en-ciologue ou comment c'est arrivé. Alors, on en avait déjà un peu discuté, mais je pense que ça peut être quelque chose aussi intéressant pour les personnes qui sont là.
Alors, merci pour cette question. Alors, il s'avère que lorsque j'effectuais mes études, mon intérêt pour la peinture était aux antipodes, vraiment aux antipodes de votre travail. Ce qui m'intéressait à l'époque, c'était Mondrian. C'était Mondrian, donc c'est la rigueur, c'est la géométrie, c'est une économie...
Par ailleurs, j'aime beaucoup Mondrian.
C'est une économie de palettes, de palettes chromatiques. Et j'ai effectué pendant plusieurs années des recherches sur sa peinture, qui à l'origine est une peinture tout à fait figurative. Il a fait partie de l'école de La Haye. Il a peint des vaches, il a peint des chrysanthèmes, des natures mortes, avant d'être confronté à cette rigueur. Et cette rigueur, elle est liée aussi, elle est alimentée par une philosophie qui est celle de la théosophie, c'est-à-dire une philosophie qui a été importée d'Orient et qui vient percuter un esprit très, très cartésien, très, très rigoriste. Voilà. Et donc, lorsque j'ai eu l'opportunité d'aller faire un voyage d'études aux Pays-Bas, au Gemeente Museum à La Haye, à Den Haag, là où est conservée une très très grande majorité de son œuvre, il s'avère que j'ai eu une révélation, une petite révélation, qui est que lorsque j'observe dans certaines circonstances optiques, lorsque j'observe un objet sombre devant un fond blanc, par exemple, eh bien, à la lisière de cet objet sombre, je vois des couleurs que d'autres personnes ne voient pas. Alors, cette révélation m'a intrigué parce que l'œuvre de Mondrian, et en particulier l'œuvre géométrique, l'œuvre d'abstraction géométrique, est structurée autour d'un graphisme noir sur fond blanc. Et là, je voyais des couleurs et les personnes qui étaient autour de moi ne les voyaient pas. Donc, bien que ça se soit déroulé aux Pays-Bas, je n'avais absolument pas abusé de produits licites. Et il fallait bien que ce phénomène trouve une explication. Donc, quand je suis rentré en France, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions d'optique physiologique, et puis je me suis rendu compte que j'avais une caractéristique oculaire qui était à l'origine de cette perception. Alors, il s'avère que je portais déjà des verres correcteurs à l'époque, mais je n'avais jamais pensé avoir cette capacité d'avoir une double perception, à la fois une vision corrigée, une vision naturelle.
Parce que ça arrivait plutôt sans les lunettes ou avec les lunettes ou les
Alors,
deux
les deux, mais dès l'instant où j'en ai eu conscience, avec les lunettes, c'était amplifié. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure avant cette conversation, j'ai revisité l'exposition sans mes lunettes, et c'est du bonheur. C'est du bonheur parce que le flou envahit tout l'espace visible. Donc tout à l'heure, je parlais des limites, des frontières, des lisières. Et là, tout se fond, il y a un aspect fusionnel, mais qui m'appartient, qui relève de mon intimité. Alors ça me réjouit, d'autant plus que je ne peux pas le partager.
Oui, c'est vrai. Et... C'est drôle, je vous coupe une seconde, mais parce que ça me fait penser à un livre que j'aime beaucoup, qui est un livre pour enfants qui date déjà un peu. C'est un livre de Patrick Modiano et de Sampé qui s'appelle Catherine Certitude, et où il est question justement de cette double vision dont vous parlez, enfin, d'une petite fille qui a des lunettes et qui, en fait, son père lui apprend quand elle les enlève, elle a aussi cet avantage de pouvoir voir le monde flou si elle le désire, et que c'est comme un... pas comme un pouvoir, mais disons comme un atout supplémentaire de pouvoir choisir à un moment donné de regarder les choses à travers ce flou.
Oui, j'adhère complètement, parce que ce qui peut être considéré, et on revient un tout petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui peut être considéré comme étant non pas une pathologie, mais une déficience sensorielle, ça peut devenir une qualité. Et c'est ce qui s'est passé dans ma situation. C'est-à-dire que là où ces lisières pouvaient être l'expression d'un défaut oculaire, je les ai transformées en passion. Et c'est comme ça que... je me suis intéressé à l'arc-en-ciel, enfin au spectre d'abord, hein, puisque en fonction de l'orientation de l'objet, d'un côté c'est plutôt une lisière jaune-orangé, de l'autre côté c'est plutôt vert-bleu. Donc je me suis approprié, j'ai intégré en moi cette spectralité. C'est pas du tout des auras, hein, c'est pas ce n'est pas une approche de type métaphysique. Ça m'est arrivé parfois, après des méditations, d'avoir cette sensation des corps subtils. Mais là, c'est quelque chose de tout à fait ordinaire. Quand je regarde l'objet qui est sur la table, quand je regarde la table, à sa périphérie, c'est donc tout à fait naturel. Et donc après... les études sur le spectre, tout naturellement, est venu l'arc-en-ciel. Et à travers l'arc-en-ciel, cette volonté de marquer aussi une différence avec ce qui aurait pu être légitimement dénommé iridologie, parce que l'iridologie, c'est la racine grecque, Déridée, c'est l'arc-en-ciel en grec. Mais dans la mesure où l'iridologie, c'est une discipline paramédicale qui analyse l'état de santé d'un individu en fonction des marquages au niveau de son iris oculaire. Pour éviter qu'il y ait une confusion, eh bien, j'ai forgé un néologisme qui est celui d'arc-anciologue. Alors, il y a un arc-anciologue en chair et en os, vivant, mais il n'y a pas d'arc-anciologie, parce qu'une fois que j'ai posé le terme d'arc-anciologue, il y a une iridologie qui est celle qui désigne la science de l'arc-en-ciel, il y a une iridographie qui désigne l'aspect artistique, la façon dont les artistes ont représenté l'arc-en-ciel, et puis il y a une iridosophie qui est celle de la sagesse de l'arc-en-ciel, celle qu'on va trouver dans les textes sacrés, dans les contes, les légendes, etc. etc. À partir de ce moment-là, j'ai autant aimé Turner que
Mondrian. Bah oui.
Voilà. Et puis, mais tout ce qui relève de, justement de cette. Et c'est l'immense plaisir, l'immense euphorie que j'ai par rapport à cette exposition et à ce travail que vous avez conduit. C'est une jouissance intérieure qui est celle de l'absence de limite, en fait, hein, qu'on va retrouver chez Rothko, qu'on va trouver chez Monet à certaines périodes de son existence. Donc, il y a du potentiel, Laura.
Merci beaucoup. Et on va s'arrêter là. Ouais.
Oui, c'est ça, c'est qu'on a un petit souci de.
Oui, je vais.
Une contrainte horaire.
Oui, oui.
Voilà.
Oui. Bien sûr. Ah non, mais là, on s'arrête là pour la partie de conversation, mais les questions sont les bienvenues.
Est-ce qu'on peut écouter votre travail? Quel type d'œuvre musicale pourrait lui correspondre? Et deuxièmement, son propre rythme, ses pompes, sa pluie, ou refuse le rythme de son cœur. Voilà, maintenant, c'est la seule chose que je pense.
Quel serait son propre rythme? C'est pas facile de répondre à cette question, parce que j'ai l'impression que il y a des rythmes différents à l'intérieur même de la peinture. Et en fait, c'est une question intéressante, d'autant plus que cette peinture a été produite en musique, ce qui n'est pas forcément le cas. Je ne travaille pas toujours en musique. Mais donc, je disais tout à l'heure que la peinture avait été réalisée à l'origine dans un gymnase, parce que le lieu permettait, comme c'était très grand. Et en fait, j'avais travaillé avec quelques personnes qui m'assistaient en faisant les mélanges de couleurs, et ensuite moi je peignais directement au sol avec un spalter, donc c'est une grande brosse large à poil court. Et pendant la peinture, je leur avais proposé, on avait une enceinte, et je leur avais proposé de mettre la musique. Donc en l'occurrence, ce n'est pas moi qui ai choisi la musique, ce que je veux dire par là, c'est que on a travaillé en musique, mais avec beaucoup de musiques différentes, avec des choses aussi bien peut-être assez lentes, presque méditatives, du classique, des choses un peu plus pop aussi, un petit peu plus dansantes. Et d'où le fait que ce serait difficile de définir un rythme par rapport à cette peinture, en tout cas. Oui, puis c'est peut-être aussi la taille, parce que donc là, elle se retrouve répartie, morcelée sur l'ensemble de l'espace. Donc on n'a plus cette perception tout à fait. Mais je disais tout à l'heure que c'était presque 10 mètres de large par 20 mètres de long, et je crois que j'avais aussi envie justement que, tout en étant en fusion et lié, qu'il puisse y avoir comme ça des rythmes différents. Alors je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à la question.
La question.
Voilà.
Moi, j'ai une question à Philippe par rapport aux perceptions des couleurs. Ça fait des années que je me vois l'arc-en-ciel autour de la Lune. Et vraiment très puissamment, environ un mètre, enfin. Et chaque fois je dis, mais regardez, et personne ne les voit. Et j'ai imaginé, moi j'ai la perception des auras, là je vous vois, spécialement sur le fond. Je pensais que c'était des perceptions auriques, alors pourquoi est-ce que c'est, est-ce que toi tu perçois l'arc-en-ciel rond autour de la Lune? Est-ce que c'est pas l'aura, enfin c'est la réflexion de couleurs, j'imagine. Mais pourquoi certains ne le perçoivent pas? C'est pas l'aura de la Lune là. Ça a rien à voir avec des perceptions auriques ou alors de...
Je crois pas.
Ah,
je crois, enfin, je pense pas. C'est bien heureux celui qui a ses perceptions. Ça dépend de la sensibilité de l'observateur, en fait. Il suffit parfois qu'on pose une image, qu'on pose un regard sur un objet tout à fait ordinaire, pour le voir différemment. C'est tout à l'heure ce que j'évoquais, cette notion du pas de côté. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on a une perception ordinaire, c'est la perception commune. On voit un verre, une tasse, une table. Ça, c'est ce qui est partagé. Et puis, c'est la grande leçon de René Descartes. Descartes, quand il a écrit le discours de la méthode, qui est quand même un texte fondateur par rapport à notre philosophie, enfin, notre philosophie rationnelle, il a beaucoup travaillé sur l'arc-en-ciel. Et sa théorie sur l'arc-en-ciel, elle a été mise un peu de côté parce que à l'époque, elle a posé problème, elle a posé des questions de nature déontologique. Mais il y a une chose qui est cruciale, c'est que Descartes a fait ce pas de côté. C'est-à-dire qu'il a observé l'arc-en-ciel tel qu'il était. Et puis, mentalement, il a réalisé ce que j'appelle une extase mineure. C'est-à-dire qu'il s'est déplacé et il a observé l'observateur. Et en observant l'observateur, il a constaté que l'arc-en-ciel, ce n'était pas un cercle. Ce n'était pas une portion de cercle. C'est-à-dire que ça lui a amené à réfléchir différemment par rapport à la perception ordinaire. Et cette ouverture, qui est une ouverture qu'on pourrait qualifier de métaphysique, parce qu'une extase, ce n'est pas naturel. Hein. Se regarder différemment, c'est le dédoublement, c'est ce qu'appellent les psychologues ou les psychanalystes un dédoublement. C'est-à-dire que je suis là, je regarde, mais que va m'apporter comme information une partie de moi-même si je me délocalise pour m'observer observant. Donc il y a des personnes qui ont cette faculté de regarder différemment notre environnement. Alors après, bon, il peut y avoir, dans certains cas de figure, alors on n'appelle pas ça un arc-en-ciel, c'est un halo lunaire. Et cet halo lunaire, il est occasionné par des voiles atmosphériques qui vont diffracter la lumière qui est réfléchie, la lumière solaire qui est réfléchie par la Lune. Voilà. Donc ça, c'est une réponse beaucoup moins poétique que la question. Mais c'est une chance de pouvoir percevoir ce spectacle nocturne, en tous les cas.
Dans le mouvement de l'esprit, en continuant sur ce chemin de la perception, j'ai une question pour la peintre. Parce que il y a une dimension qu'on n'a pas évoquée beaucoup, et qui est la dimension de ce que j'appellerais de la distance. On est dans l'accommodation, mais dans l'optique. Alors, il y a la distance de regard. On a tous fait l'expérience dans un musée de voir un tableau à 3 mètres, puis d'aller mettre le nez dessus et de voir vraiment tout à fait autre chose. et c'est la même chose, c'est le même tableau. Alors, la question que je me pose et que je voulais vous poser, c'est quand on est dans le temps de 1,70 à peu près, et qu'on
vous êtes gentil.
Qu'on est en train de faire la plat à un truc qui fait 100 mètres carrés, et que ce truc-là qu'on est à plat, en train de peindre à 50-60 de distance, va se retrouver à 20-30 mètres de haut, à 50 mètres, 100 mètres des yeux du regardeur. Comment est-ce que vous vivez ça, cette notion de distance? Est-ce qu'elle est dans votre sentiment de création, ou est-ce que vous baignez dans l'énergie de la couleur sans vous soucier de la connotation du regard? Enfin, comment vous dépatouillez avec ces distances?
Oui, c'est une bonne question. Alors, la plupart du temps, je peins in situ, donc directement dans les espaces où sont montrées les peintures. C'est-à-dire que le plus souvent, il n'y a pas de support intermédiaire, mais ça va être directement sur les murs, par exemple, ou sur le sol. Mais le fait que ce soit réalisé in situ, ça permet de ne pas avoir ce problème de distance, parce que je suis en train de faire, et puis après, moi, je peux me déplacer et regarder de différents points de vue ce qu'on voit. Donc, voilà. Là, en l'occurrence, en effet, c'était très difficile, parce que, comme vous le disiez très bien, j'avais le nez dessus, j'étais en train de peindre au sol, à genoux, alors que, ensuite, la peinture, voilà, elle prend une autre forme, elle peut être vue de très loin, et c'est pas évident. Donc, ce que je faisais, c'est que je montais de temps en temps en haut d'un escabeau pour voir, tout en sachant que je n'avais pas la même vision non plus, parce qu'avec la perspective, c'est faussé. Et puis, il y avait également un des assistants qui montait en haut d'une échelle de corde, puisqu'on était dans un gymnase, et qui prenait des photos. Et un petit peu comme ça. Et puis après, il y a aussi l'imagination, la projection. Et finalement, ça a été. Enfin, quand je dis ça a été, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de surprise ou de... Enfin, de surprise, si, bien sûr, parce que on peut, tant que les choses ne sont pas là, accrochées telles qu'elles doivent être, on ne les voit pas, en fait. Hein, mais on ne les voit pas de la même manière. Mais par contre, il n'y a pas eu de déconvenue. Mais c'est vrai que ça a été un exercice très difficile, j'ai trouvé... en effet, c'était l'exercice, c'était la distance, mais pas seulement la distance, c'était aussi le passage de l'horizontale à la verticale, et puis le changement de regard. Et ensuite, justement, en installant la peinture ici, c'était aussi ce changement de distance qui m'intéressait, de pouvoir à la fois avoir dans cette partie-là cet aspect quand même un petit peu monumental, mais tout en étant beaucoup plus près, et le fait de pouvoir parcourir et puis d'être au-dessus, on ne voit pas la même chose. Et puis on peut s'approcher aussi si on veut, mais voilà. Oui, il faut qu'on s'arrête,
je crois. Je suis vraiment désolée.
Non, c'est bien. Ben oui, oui. Ouais.
Mais on vous invite à boire un verre.
Mais merci.
Oui.